Selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, les Ukrainiens pourraient s'emparer de toute la rive droite du Dnipr d'ici le mois d'octobre, dont la ville de Kherson. Mais est-ce réellement le cas?
Concernant la situation particulière de Kherson, je pense qu'il faut rester à la fois prudent mais relever un certain nombre de faits. La circulation des informations à partir des bases ukrainiennes, de la part du gouvernement ukrainien, autant le dire d'entrée de jeu, sera plus clair. Oui, cette circulation est très problématique et très lacunaire. Donc on filtre les éléments d'information. Et comme dans toute guerre, de part et d'autre d'ailleurs, il y a des éléments de propagande de guerre, cela a toujours existé, c'est dans tous les manuels d'histoire. Cette propagande vise effectivement à soutenir le moral des troupes et aussi des populations civiles qui, à l'arrière, subissent toutes plus ou moins gravement, à un degré quelconque, à des degrés divers, les suites des opérations militaires. Ça, c'est pour un premier point. Deuxième point, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une contre-offensive? Je crois qu'il faut établir un lien très clair entre cette contre-offensive et la radicalisation de la position de Washington concernant ce conflit. On observe déjà depuis quelques semaines quand même un regain d'activité de l'armée ukrainienne, et ce regain d'activité s'accompagne toujours en fait d'un soutien militaire de plus en plus accru de la part des États-Unis. Donc ça, c'est un fait. Il y a d'ailleurs 48 heures, tout simplement, le gouvernement américain annonçait qu'il allait intensifier son soutien au gouvernement ukrainien, un soutien qui passe évidemment par l'octroi d'un important matériel militaire. Donc les causes sont là. Enfin, je veux dire, on voit clairement que le gouvernement ukrainien est porté à bout de bras par les États-Unis et par ce qu'on pourrait qualifier carrément de pont aérien, militaire et technologique. De ce point de vue, l'Union européenne aujourd'hui subit les conséquences assez dures d'ailleurs de ce conflit. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, pour un ménage belge moyen, la facture de gaz et d'électricité va s'élever à 8000 euros par an. Donc on est vraiment sur des données tout à fait destructrices. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le dire, l'establishment politique occidental s'est aligné sur la ligne de Washington. Et cette dernière finit tout de même par pouvoir se parer de quelques victoires, ou en tout cas de contre-offensives, d'éléments positifs sur le plan militaire en ce qui concerne le terrain des opérations en Ukraine. Alors jusqu'à quand les États-Unis sont-ils prêts à soutenir le gouvernement ukrainien? Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les grands titres de la presse des États-Unis incitent depuis quelques jours les Européens à pratiquer une, je cite, « économie de guerre » concernant une série de biens stratégiques, dont évidemment les produits énergétiques, c'est-à-dire pratiquer le blocage des prix. C'est assez piquant, évidemment. Un journal comme le New York Times est d'habitude beaucoup plus libéral sur ces questions. Mais là, c'est fini. Donc, on sent bien que la radicalisation, la montée, l'escalade n'est pas encore prête de s'arrêter et qu'elle est parfaitement assumée par les États-Unis. Comment décoder maintenant cette radicalisation? À quoi correspond-elle sur un plan structurel et géostratégique? En testant aujourd'hui sur la question ukrainienne la Russie et en engageant une collaboration militaire, en tout cas des envois de matériel militaire, mais c'est une forme de coopération militaire, avec Kiev, les États-Unis sont en train d'essayer de déforcer l'ensemble des pays qui tentent de créer un ordre multipolaire qui serait l'alternative à l'hégémonie des États-Unis héritée de la fin de la guerre froide. Et donc, quelque part, derrière l'Ukraine, il y a la Russie, mais derrière la Russie, j'ai envie de dire, il y a les BRICS. Il y a donc aussi la Chine et un ensemble de pays qui voudraient pratiquer un non-alignement beaucoup plus marqué à l'égard des desiderata de Washington, que ce soit en matière de gouvernance, d'économie ou de politique internationale. Dans ces conditions, je pense que l'engagement de l'Ukraine, si vous voulez, toute cette espèce d'intensification, cette escalade dont témoignent les épisodes de contre-offensive, suivis parfois de revers, puis d'un nouveau de contre-offensive de la part de Kiev, eh bien ce climat n'est pas près de se calmer et l'escalade est là, elle est présente et elle va encore durer un certain temps. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui les élites politiques en Europe occidentale ne vendent plus à leur population une stabilisation rapide du front en Ukraine. Je vais simplement, pour conclure, vous donner, tout simplement vous livrer la déclaration du Premier ministre belge qui annonçait aux ménages de ce pays 5 à 10 hivers difficiles en ce qui concerne le gaz et l'électricité. C'est donc le signe qu'aujourd'hui, nos élites politiques en Europe occidentale savent que Washington ne va sûrement pas, dans un avenir proche, baisser la garde en Ukraine. Et donc, l'intensification des opérations, l'escalade, elle est encore là pour un bon bout de temps.